VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 23 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Bonjour. Pour commencer, les titres.
Les troupes d'une force régionale préparent à Banjul l'arrivée prochaine en Gambie du président Adama Barrow après le départ de Yahya Jammeh.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires en grève depuis le 9 janvier ont cessé leur mouvement hier soir.
Quatre militaires camerounais impliqués dans la lutte contre Boko Haram, dont un général, ont été tués hier dans un crash d'hélicoptère.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé la tenue prochaine avec les dirigeants du Canada et du Mexique de nouveaux pourparlers sur l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN qui se tient au Gabon.
Pour l'instant, le journal.
Des troupes d'une force régionale ont pénétré trop tôt dimanche matin dans la capitale de la Gambie, Banjul, où elles ont été accueillies par une foule enthousiaste quelques heures après le départ du président sortant, Yahya Jammeh. Celui-ci a trouvé refuge en Guinée équatoriale après une brève escale à Conakry. La MICEGA, la mission de la CDAO en Gambie, doit ouvrir la voie au retour du président Adama Barrow, qui a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar le jeudi 19 janvier. Jean-Roger Bion, vous nous résumez les principaux points de l'actualité gambienne.
Oui, jusqu'à dimanche soir, aucune déclaration n'a été faite sur le retour en Gambie du nouveau président, mais on laisse entendre qu'il le ferait dès que possible. Marcel Alain de Souza de la CDAO a fait savoir que certains éléments des forces de sécurité gambiennes doivent être immobilisés avant le retour d'Adama Barrow. Un autre porte-parole a déclaré aux journalistes à Banjul que la capitale serait inspectée ce lundi pour déterminer si la sécurité est adéquate pour le retour en toute sécurité de M. Barrow. Le département d'État américain a salué la transition pacifique en cours du pouvoir en Gambie et a félicité Adama Barrow pour son investiture. Le porte-parole intérimaire Mark Turner a également salué la modération montrée par le peuple gambien au cours des dernières semaines alors que Yahya Jammeh cherchait vainement à s'accrocher au pouvoir. Séparément, hier, un haut conseiller de M. Barrow, s'exprimant au Sénégal, a allégué que Jammeh a pillé les comptes bancaires du gouvernement dans les derniers jours de son règne. Amaï Fati a déclaré aux journalistes que les coffres de sa petite nation sont, selon lui, pratiquement vides. Selon lui, le ministère des Finances et la Banque centrale de Gambie avaient confirmé que plus de 11 millions de dollars ont disparu au cours des deux dernières semaines seulement. Pourtant, la CDAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de l'ex-président, y compris à revenir dans son pays, tout en se portant garante de ses propriétés, celles de sa famille et des membres de son régime ou de son parti.
Et dans la seconde partie de cette édition, vous pourrez entendre les réactions de réfugiés gambiens à Dakar suite au départ pour l'exil de Yahya Jammeh.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires en grève depuis le 9 janvier ont cessé leur mouvement hier soir. C'est pour donner une chance aux discussions, a affirmé à la télévision RTI Théodore Nyanyan-Zadi de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires. De nouvelles négociations auront lieu à partir de mardi, a-t-il précisé.
Quatre militaires camerounais, dont un général coordonnant une opération de lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, ont été tués hier dans un crash d'hélicoptère, a appris l'AFP de sources concordantes. Nous avons perdu quatre hommes, dont le général Jacob Kodji et un colonel, a affirmé sous couvert d'anonymat un haut responsable militaire impliqué dans la lutte contre Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump se met au travail. Il a annoncé la tenue prochaine avec les dirigeants du Canada et du Mexique de nouveaux pourparlers sur l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qu'il a souvent critiqué durant la campagne électorale. La première ministre britannique, Theresa May, est aussi attendue à la Maison-Blanche. Mais dès le début de son mandat, Gaby Dorsil, M. Trump crée déjà la controverse.
Le nouveau président semble ne pas pouvoir éviter la controverse, même avec un agenda aussi chargé. Ses premières 48 heures ont été marquées par de nouvelles salves sur Twitter, d'abord contre les rapports de presse, faisant remarquer que son investiture avait attiré moins de spectateurs dans la capitale fédérale que lors de l'entrée en fonction de Barack Obama. Ensuite, c'était pour se moquer des centaines de milliers de personnes, surtout des femmes, descendues dans la rue samedi lors de la grande marche des femmes. Ils auraient mieux fait d'aller voter le 8 novembre, a ironisé le président Trump. Néanmoins, il a, dans un autre tweet, affirmé que les manifestations pacifiques étaient, et nous citons, une des marques de fabrique de notre démocratie. À la CIA, M. Trump, qui tenait à affirmer son soutien aux services de renseignement, a brusquement changé de sujet pour se plaindre de la presse et des chiffres avancés sur la participation à son investiture. Peu surprenant, mais inquiétant, disent certains journalistes, qui entrevoient déjà des rapports tendus ces quatre prochaines années entre la Maison-Blanche et le quatrième pouvoir.
Le président Donald Trump a par ailleurs abordé le dossier iranien hier avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un entretien téléphonique au cours duquel il l'a invité à venir à Washington en février. Messieurs Trump et Netanyahou sont tombés d'accord pour continuer à échanger leurs points de vue sur une série de questions régionales, notamment les menaces que constitue l'Iran, a déclaré la Maison-Blanche.
Les émissaires du président Bachar al-Assad et les rebelles syriens tiennent aujourd'hui à Astana leur premier round de négociations directes depuis le début de la guerre en Syrie. Selon les groupes rebelles appuyés par la Turquie et aussi le régime soutenu par la Russie et l'Iran, les discussions seront avant tout centrées sur le renforcement de la trêve entrée en vigueur le 30 décembre.
En France, l'ancien Premier ministre Manuel Valls affrontera en position de faiblesse l'outsider Benoît Hamon au second tour de la primaire socialiste. Monsieur Hamon, 49 ans, représente l'aile gauche du parti. L'ex-ministre de l'Éducation est arrivé en tête du premier tour dimanche, à moins de 100 jours de la présidentielle en France, avec 36,3% des suffrages contre 31,1% pour Monsieur Valls, âgé de 54 ans. Le vainqueur de dimanche prochain n'est toutefois pas assuré d'être au second tour de la présidentielle, tant la campagne est dominée par la droite et l'extrême droite.
François Hollande est arrivé hier à Bogota pour une visite officielle de 2 jours consacrée au soutien de la France à l'accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC, a constaté l'AFP. Le chef de l'État français consacrera la journée de mardi au processus de paix. Il doit rencontrer dans la matinée à la résidence de France des représentants de victimes du conflit armé qui déchire la Colombie depuis les années 60 et a fait au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés.
Les conditions météorologiques extrêmes qui ont sévi ce week-end dans le sud des États-Unis ont fait au moins 15 morts et plus de 20 blessés. Le pire n'est pas encore passé, car la météo annonce de nouvelles tempêtes qui pourraient être tout aussi dévastatrices. Le Service météorologique national des États-Unis a annoncé que le sud de la Géorgie, le nord de la Floride et le sud-est de l'Alabama pourraient faire face à des tornades puissantes, des vents violents et de la grêle. Les tornades qui traînent sur des kilomètres sont également un risque réel dans la région.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pineau sur VO Afrique.
Bonjour Odessa, bonjour à tous. Le Gabon quitte la compétition. À Libreville, devant son public, le pays organisateur n'a pas fait mieux que match nul 0-0 face aux Lions indomptables. 3 petits matchs et puis s'en vont, les Panthères pourront nourrir des regrets. Compte rendu de Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Panthères du Gabon quittent la CAN 2017 en phase de groupe, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de se maintenir dans la compétition. Très entreprenantes à l'entame du match de dimanche soir contre les Lions du Cameroun, elles ont déployé la même énergie aux minutes finales, manquant d'ouvrir le score aux arrêts de jeu. Un maigre lot de consolation qui pourra difficilement penser le cœur meurtri des fans gabonais. Pour le coach José Camacho, qui a pris en main les Panthères à 2 mois de la compétition, il ne fallait pas s'attendre au miracle.
Je suis désolé pour les joueurs et le public. On a vu que dès les premières minutes, on voulait gagner, on a les victoires, on n'a pas eu de chance. Pour passer au quart de finale, nous a manqué les deux points qu'on a perdus dans le premier match.
Après leur déception, les Gabonais auront-ils le cœur à aller au stade applaudir les autres équipes? C'est ce qu'espère la Confédération africaine de football et le comité local d'organisation. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Le Gabon est éliminé, le Cameroun lui termine deuxième de ce groupe A, car à Franceville, c'est le Burkina Faso qui a battu le petit poussé de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée-Bissau, 2-0. Amdinsi était sur place pour VOA Afrique.
Les Étalons ont ouvert le score à la 11e minute sur un centre anonyme d'Alain Traoré. Le défenseur Silva a dévié le ballon de la tête sur son gardien Mendes, qui avait anticipé sa sortie et déserté sa case. Le retour in extremis de Thomas Dabo n'a rien changé car le ballon avait déjà franchi la ligne de but. Les Burkinabés ont ensuite profité des largesses défensives adverses pour tuer le match en inscrivant le but du KO à la 58e minute. Ceci grâce à Bertrand Traoré qui a trompé la vigilance du portier bissau-guinéen d'une frappe croisée à ras de terre. Avec cette victoire, le Burkina termine premier du groupe A devant le Cameroun qui a tenu en échec le pays hôte, le Gabon. Une belle qualification en quart de finale bien accueillie par Bertrand Traoré.
Franchement, c'était la qualification qui était en jeu. Peu importe la place, il fallait se qualifier. Mais sortir premier du groupe, c'est lancer un signal fort à tout le monde qu'on est là, qu'on est présent.
Les poulains de Paulo Duarte peuvent fêter cette troisième qualification en attendant de connaître leur adversaire à Medine Si, Franceville, VOA Afrique.
Studio de joie, l'Africain au Gabon. Hey. Ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Hey. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer au foot.
À suivre ce lundi dans le groupe B, Tunisie, Zimbabwe et Sénégal, Algérie. Les Lions de la Teranga sont déjà qualifiés alors que les Fennecs doivent absolument l'emporter pour espérer voir les quarts de finale. Le Sénégal a jusqu'ici réussi un sans faute dans la compétition. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouy.
Bonjour, le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale et ce n'est que justice. Depuis la génération dorée des Diouf, Camara, Fadiga et autres Tony Silva, révélation de la Coupe du Monde 2002 et victorieux du champion sortant français, le Sénégal n'avait plus eu un tel cru. La longue disette des Lions n'a pas seulement été justifiée par la rareté de grands talents, mais aussi un environnement fébrile ainsi que la difficulté de l'équipe à gérer les temps faibles sur le terrain lorsque la sélection doutait. En d'autres termes, l'incapacité de passer d'une sélection de jubilé à une équipe de compétition. Le redressement de l'équipe nationale s'est opéré dans la foulée de la prestation honorable des Jeux Olympiques de Londres pendant l'été 2012. La récupération de ce vivier prometteur et l'organisation plus professionnelle de l'environnement de la sélection nationale n'ont pas tardé à donner des résultats probants. Une équipe à l'effectif plus riche, équilibré, tactiquement varié, au mental d'acier et au jeu très efficace est née. Ses joueurs de base, les Koulibaly, Kouyaté, Diamé et Mané, titulaires dans de grands clubs européens, en constitue la colonne vertébrale. Mais surtout, la mayonnaise a enfin pris. Les résultats suivent. À la veille d'un match contre l'Algérie, qui n'a plus pour lui un intérêt sportif crucial, l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé va surtout chercher à maintenir la dynamique de la gagne, tout en faisant tourner l'effectif dans l'optique de match couperet qui s'annonce. Alors, bonne chance, coach, et à bientôt.
C'est la fin de ce journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À peine 48 heures après sa prestation de serment, le président des États-Unis, Donald Trump, est aux prises avec la presse américaine qu'il accuse d'avoir falsifié les données sur la participation du public à son investiture. Pourtant, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a des questions sérieuses à aborder dès la première semaine de son mandat, notamment des décisions pouvant affecter l'économie et la diplomatie américaine. Gaby Dorsil en a discuté avec l'ancien secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Herman Cohn.
Son discours après avoir prêté serment a été très pessimiste. Le pays est en très mauvais état, les gens sont en train de souffrir. Et il y a une petite bande de politiciens à Washington qui s'est enrichie et ils n'ont rien fait pour le peuple. Donc, il a insulté tous les politiciens qui étaient là sur la plateforme avec lui, tous les anciens présidents, etc., même les républicains. Donc, il a commencé avec la controverse. Et après, il s'est embourbé avec la question de combien de gens étaient présents pour l'inauguration. Il a dit que c'était le plus grand nombre dans l'histoire, tandis que les photos ont montré qu'Obama a eu beaucoup plus de gens que lui. Donc, à mon avis, il est mal parti.
On le critique d'autant qu'il l'a fait à la CIA, dans un endroit qui est plutôt vénéré.
Dans un endroit avec des étoiles pour les gens de la CIA qui ont perdu leur vie pendant leur travail. Il a commencé à attaquer la presse. C'était pas bien. Donc, il n'a pas la capacité de ne rien dire.
Et cela nous amène à samedi. Comment rester en silence, de toute façon, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour vous critiquer?
Non, il a dit deux choses. D'abord, il a dit, s'ils sont tellement enthousiastes contre moi, pourquoi ils n'ont pas voté? Mais la réponse est qu'ils ont voté parce que Mme Clinton avait 3 millions de votes plus que lui. Mais après, il a dit « je respecte le droit de manifester ». Ça fait partie de notre démocratie. Donc, il a bien fini avec cette histoire. Il a dit des bonnes choses.
À quoi faut-il s'attendre pendant cette première semaine de Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche?
Le premier ministre d'Angleterre va venir ici. Et comme vous savez, l'Angleterre va quitter le marché commun, l'Union européenne. Et il a dit que c'est une bonne chose. Donc, il va proposer des accords bilatéraux avec différents pays, et en commençant avec l'Angleterre.
C'était le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen, qui répondait aux questions de Gaby Dorsil. Pour revenir, comme promis, sur la Gambie, voici quelques réactions de réfugiés gambiens au Sénégal, réactions recueillies par notre correspondant Seydina Abagay.
Yaya Fofana s'est réfugié à Dakar avec sa famille pour fuir un éventuel conflit armé en Gambie.
Là où la situation était, on ne peut pas rester. Tout le monde connaît Yaya Djamé. Bon, maintenant, tout le monde est sorti, même l'entourage là où j'étais, tout le monde avait parti. Bon, moi, j'ai beaucoup d'enfants, des petits-petits enfants. Il faut voir des enfants là-bas. J'ai 6 enfants au dos. Donc, je ne peux pas rester là-bas. Si quelque chose fait se faire, on va dire que vous avez fait exprès. Pourquoi tu n'es pas sorti?
Malgré le départ de Yaya Djamé, ces réfugiés gambiens veulent rester au Sénégal le temps que la situation dans leur pays se stabilise.
Et là, demain est parti, on est là. Parce que moi, si c'était moi, je vais voir 2-3 jours, parce que c'est hier il est parti. Je vais voir 2-3 jours avant de bouger. Parce que tu ne peux pas bouger seulement comme ça, tu vas trouver encore quelque chose. On ne prie pas Dieu pour ça. Mais après, quand il est parti comme ça, si après 2-3 jours, il s'est calme, on peut partir, il n'y a pas de problème.
Par le Sambre, responsable du centre d'accueil des réfugiés et maire de la commune du Point E, estime qu'il est temps que ces réfugiés regagnent la Gambie.
Quand on les a insérés au niveau de la piscine, on ne s'était pas donné un délai. Donc on ne savait pas exactement quand est-ce que la crise allait être réglée. Donc maintenant, au niveau des autorités, ils étaient en train de voir comment est-ce régler le retour en rapport avec les autorités, les nouvelles autorités gambiennes. Puisque maintenant, il n'y a plus de problème, le président Djamé est parti et le président Adama Barrow va s'installer. Maintenant, la paix est revenue, ben, maintenant, il faut qu'il retourne chez eux.
À Dakar, les autorités sénégalaises commencent déjà à organiser le retour des réfugiés à Banjul. Plusieurs bus de la Société nationale de transport sont réquisitionnés pour leur rapatriement en Gambie. Seydina Abagay, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Mali et suite à l'attaque kamikaze du mercredi 18 janvier à Gao, les Maliens ont tenu à réaffirmer leur unité face au terrorisme en tenant en particulier un grand rassemblement à Bamako. Il y a eu aussi des prières dans les mosquées et églises du pays pour le repos des âmes des victimes de l'attentat. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le président de la République du Mali est plus que déterminé depuis l'attentat à la voiture piégée de Gao. Pour lui, les jeunes seront soignés et établis. Les patrouilles mixtes auront bel et bien lieu. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Al-Mourabitoun paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain par des hommes sans foi ni loi. Il nous reste, chers amis, tous à combattre le monstre et à le poursuivre jusque dans ses dernières extrémités. Et cela sera le cas, Inch'Allah.
C'est pour cela qu'il y a eu un grand rassemblement à Bamako, une première depuis l'arrivée du président Ibeka au pouvoir, que la classe politique malienne, majorité et opposition, se donnent la main. Soumeila Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Je voudrais ici exprimer ma douleur et celle de toute l'opposition politique et républicaine suite aux tragiques événements survenus au camp du mécanisme opérationnel de coordination de Gao. Nous restons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre et condamner avec la dernière énergie les forces rétrogrades et de notre âge qui voudraient asservir notre peuple et bloquer son développement. Nous présentons nos condoléances aux forces armées maliennes, aux groupes armés signataires des accords d'Alger, aux familles endeuillées et à l'ensemble de la nation malienne.
Le grand rassemblement de Bamako avait pour cadre le monument de la colonne blanche. Younous Amey Diko, porte-parole de la majorité présidentielle.
La CMP, tout en saluant les efforts fournis, exhorte le gouvernement à doter les forces de défense et de sécurité maliennes de tous les moyens leur permettant de faire face avec l'efficacité requise à leur mission de défense du territoire national, de protection des populations et de leurs biens.
Les organisations de la société civile étaient les plus nombreuses. Dramane Diarra, président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, AGDM.
Aucun clan, aucun régime, aucun gouvernement seul, aucun groupe ne peut sortir le Mali de la crise profonde qui le terrasse aujourd'hui. C'est pourquoi il est indispensable que nous puissions ensemble, coude à coude, relever notre pays et le remettre dans la voie, dans la dynamique du développement. Dans tout temps.
Parmi les participants à cette communion nationale contre le terrorisme, des élus de la nation, Karim Keïta, président de la commission défense de l'Assemblée nationale du Mali.
Se mettre ensemble pour dire qu'il faut à présent que la paix revienne au Mali, que la stabilité revienne au Mali. Donc c'est un rassemblement républicain pour tous ceux qui ont souci de ce pays-là.
Au moment où ce grand rassemblement se faisait, 3 soldats maliens perdaient la vie dans la région de Ségou. Les assaillants ont détruit un véhicule de l'armée malienne et sont partis avec 2 autres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale veut faire la lumière sur le contentieux entre les militaires radiés en 2011 et leur hiérarchie. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Les visages toujours graves, la volonté forte, les militaires radiés évoquent en toutes circonstances leur innocence pour la majorité d'entre eux et une lecture faussée de la mutinerie ayant conduit à leur radiation des forces armées nationales. Au Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, Ashkroun, ils ont expliqué les circonstances qui ont entouré leur radiation. Hervé Tapsoba est le porte-parole de ces militaires radiés.
Nous attendons du Ashkroun que les dossiers soient traités et
s'il y a lieu de réhabiliter ou réintégrer, que le HCRUN puisse le faire. Mais ce que nous recherchons d'abord, c'est la justice, puis la vérité.
Si nombre de ces militaires sont véritablement coupables pour s'être mutinés avec violence, la plupart d'entre ceux qui ont subi les fourches caudines de leur hiérarchie crient à l'injustice. Valentin est de ces derniers.
2 ans, 6 mois en prison. Et je sors, la justice m'acquitte. Et jusqu'à présent, je suis dans le chômage. Nous demandons seulement au HCRUN, ils n'ont qu'à faire pardon. Il n'y a pas de règles sans exception. C'est de l'injustice purement et simplement de l'injustice. Il y a des gens, nos collègues, qui sont morts par manque de soins. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait cette injustice-là. Des cousins, des officiers qui ont pillé et qui sont toujours dans les rangs. On a leur nom, on a tout. Quand même, soyons, on est où? On est au Burkina Faso ici-là.
Beaucoup de ces militaires auraient plutôt été remerciés pour des motifs étrangers à la fameuse mutinerie et la procédure en la matière n'aurait pas été suivie. Explique Hervé Tapsoba.
Personne n'a été jugé. C'est après la radiation que les gens ont été poursuivis. Juridiquement, c'est arbitraire parce que les textes militaires prévoient d'avoir une commission d'enquête qui doit procéder à des enquêtes. Le conseil de discipline statue et c'est à l'issue de ce conseil qu'on peut transmettre un dossier à la justice avant qu'une décision ne soit prise.
Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, saisi en dernier ressort aujourd'hui sous la nouvelle administration, indique les préalables pour résoudre cette question.
On reçoit des informations qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous devons tenir à leur vie. Ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Nous vérifierons. S'il faut entendre des personnes, la hiérarchie, on les entendra. À la suite, on verra.
566 militaires avaient été radiés en juillet 2011 à l'issue de violentes mutineries qui avaient vu les populations violentées et pillées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du Burkina Faso, mais aussi contribué à pourrir le pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Issa Napon, Ouagadougou. VOA Afrique.
L'attribution de la CAN 2017 au Gabon a suscité une vive controverse dans ce pays, d'aucuns estimant qu'il fallait s'occuper d'autres priorités comme la crise économique à laquelle s'est ajoutée une crise électorale. L'opposition et les organisations de la société civile ont appelé à un boycott pur et simple de la compétition. Qu'en est-il et bien ? Notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Dangmaï.
Le coup d'envoi de la CAN ne pouvait pas avoir lieu sous de meilleurs auspices. Selon le décompte officiel, 38 000 fans avaient pris place à cette occasion au stade de l'Amitié de Libreville qui compte 40 000 places. À Port-Gentil également, la foule était au rendez-vous pour les premiers matchs du groupe D, mais plus personne à OIM et Franceville. C'est bien la preuve que l'appel au boycott n'a eu aucun impact, estime Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération Gabonaise de Football, la FEGAFOOT.
Les stades sont, je ne dirais pas pleins à 100%, mais à 97-98%, les stades sont pleins. Donc, on ne peut pas poser cette question aujourd'hui de savoir si le boycott a été suivi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Selon le président de la FEGAFOOT, c'est un trait culturel des fans gabonais de n'entrer au stade qu'à la dernière minute, comme lors de l'exécution des hymnes nationaux par exemple, et le stade se remplit progressivement. Georges Mpaga, l'un des leaders de la société civile, affirme que l'appel au boycott de la CAN 2017 a eu un impact.
La moyenne de 50% ou 30% de taux de remplissage des stades est composée des Maliens, Sénégalais, Burkinabés, qui sont très très nombreux, Camerounais au Gabon, qui viennent supporter leurs équipes. Maintenant, en ce qui concerne les Gabonais, on est obligé aujourd'hui de mobiliser les jeunes dans les établissements. Ils sont corrompus moyennant 5 à 10 000 francs CFA pour suivre les matchs de football.
Berma Aissatou est une commerçante venue du Cameroun pour vendre les gadgets de la CAN 2017. Elle dit sentir l'effet du boycott.
Les marchandises, ce qui est basé pour le Cameroun, ça passe très bien. Mais le Gabon s'est bloqué.
Mais pourquoi cette situation ?
Passé, ils sont découragés. Passé, beaucoup de fois, ils passent là, ils m'insultent qu'ils ne sont pas dans la CAN. Machin, je crois que c'est pour ça que les marchandises là, ça ne passe pas.
Autre opinion, celle de Fiacre, un jeune Gabonais.
La CAN se passe bien. Tout le monde est au stade. Tous les Gabonais sont au stade. Force, vie, force, en plus, ça se passe bien. Pas de soucis. Justement des rumeurs par-ci, par-là.
Donc le boycott n'a pas d'impact.
Non, il n'y a pas de boycott.
Certains pensent que l'élimination des Panthères va tiédir l'enthousiasme des fans gabonais. Jean-Christ Mendama, superviseur technique en charge du centre de presse du stade de l'Amitié de Libreville, est plutôt optimiste.
Le peuple gabonais, c'est un peuple sportif. Et j'ose espérer que, malgré l'élimination de l'équipe gabonaise, que le public va continuer à venir au stade. J'invite le public à venir au stade parce que nous assistons à du très beau football.
La suite de la CAN 2017 sans les Panthères permettra de juger le niveau réel du soutien des Gabonais à la grand-messe du football africain. Timothée Donangbaï, Libreville, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.